RFI, grand reportage.
Moscou est un État à part. Tous nos impôts partent là-bas. Ici, on a la forêt, le pétrole, le gaz. On a beaucoup de richesses, mais tout l'argent qu'on gagne part à Moscou. Notre argent va à Moscou, et eux, en échange, ils nous donnent leurs poubelles.
C'est à l'échelle de la planète, la crise des déchets ne cesse de prendre de l'ampleur. Mais en Russie, la situation devient intenable, notamment dans la région de Moscou, où les décharges à ciel ouvert se multiplient. Pour éviter la saturation, les autorités ont donc décidé d'ouvrir une nouvelle décharge, mais cette fois à 1000 km au nord de la capitale russe. Le projet suscite la colère des habitants de la région qui ont décidé de se mobiliser, du jamais vu en Russie. Le nord n'est pas la poubelle de Moscou, c'est un grand reportage de Daniel Vallée.
Alexei Kriukov. Je m'appelle Alexei Kriukov, j'ai 78 ans, je suis retraité, citoyen russe, patriote. Nous sommes ici devant le poste d'observation numéro 1, sur le point de passage de Madmas.
Regard malicieux, accordéon en bandoulière, Alexei est installé au bord de la route avec trois autres militants. Leur mission, surveiller les allées et venues des camions qui pourraient se rendre sur le chantier de la décharge situé à 20 km de là. Autour d'Alexei et de ses amis, un mobilier rudimentaire, deux bancs en bois autour d'un feu et un cabanon pour se mettre à l'abri en cas de mauvais temps. Nous sommes à 1000 km au nord-est de Moscou, au bord d'une vaste rivière dont nous apercevons les méandres à travers les sapins.
C'est la rivière Vychega qui se jette dans la Dvina du Nord, puis dans la mer Blanche à Arkhangelsk. Les eaux souterraines de Chies, où ils veulent construire leur décharge, abreuvent tous ces cours d'eau. Alors si on les empoisonne avec les déchets de Moscou, il n'y aura plus de vie par ici. C'est pour ça que je suis là, pour défendre la nature et pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à vivre normalement dans un environnement sain.
Pour atteindre le chantier de la décharge, nous allons être pris en charge par le réseau de militants qui s'opposent au projet depuis plus d'un an. Mais d'abord, il nous faut traverser la rivière Vychegda à bord d'un vieux bateau rouillé.
On ne peut passer qu'avec le ferry. L'hiver, c'est plus pratique, on peut passer à pied sur la glace. Mais là, si vous ratez le dernier ferry, vous allez devoir traverser par le pont ferroviaire tout là-bas.
De l'autre côté de la rivière, une militante nous accueille et nous accompagne en voiture. Nous roulons sur une piste défoncée le long d'un gazoduc. 40 minutes plus tard, nous arrivons à la lisière d'une forêt de bouleaux. Il faut à présent marcher en sous-bois sur un chemin boueux. Nous arrivons enfin à destination. Devant nous, une voie ferrée, une gare désaffectée et de l'autre côté, un immense monticule de gravier. Au sommet, nous rencontrons Artyom, 28 ans. Le jeune homme est emmitouflé dans son manteau de laine et tient un thermos de thé bien chaud à la main. Équipement indispensable pour remplir sa mission, surveiller l'immense chantier qui se trouve en contrebas.
Vous voyez là-bas le cercle ? C'est pour les hélicoptères. C'est là qu'ils atterrissent. Récemment, des hélicoptères sont venus pour apporter du carburant. Dans ce hangar, il y a un générateur qui alimente en électricité tous les baraquements. Ils ont aussi deux excavateurs, des citernes avec du combustible. Ils ont de plus en plus de stocks. Mais pour le moment, le chantier est arrêté. Nous avons réussi à l'arrêter.
Et qu'est-ce que vous faites si jamais vous vous rendez compte que le travail reprend, que le chantier redémarre?
Dans ce cas, nous appuyons sur notre bouton rouge, c'est-à-dire que nous déclenchons une opération d'appel général. Tous ceux qui ont quitté le camp reviendront. Et je peux vous dire qu'il y aura du monde et qu'ils empêcheront les véhicules de passer. Nous sommes prêts et nous sommes nombreux.
Nous sommes maintenant dans le camp des militants qui s'opposent depuis plus d'un an à ce projet de décharge. Devant nous, des dizaines de tentes installées sur un terrain vague à côté du chantier. À l'extrémité du camp, des drapeaux multicolores ont été plantés par les militants venus au fil des mois apporter du matériel, des vêtements ou des vivres. À notre arrivée, nous sommes accueillis par Anna Chikalova. Chevelure blonde, sourire lumineux, c'est l'une des premières habitantes de la région à s'être mobilisée contre le projet de décharge.
Les choses ont commencé lentement, progressivement. C'est en juillet dernier que des gars du coin ont découvert ce qui se passait ici. Ils ont vu des véhicules arriver sans plaque d'immatriculation. Et puis les travaux ont commencé autour de la gare. Et personne ne nous disait ce qui se passait. On nous mentait tout le temps, on ne nous disait rien.
Peu à peu, les habitants de la région découvrent avec stupéfaction ce qui se cache derrière le chantier. Un immense projet de décharge destiné à accueillir une partie des ordures de la région de Moscou. À terme, 500 000 tonnes de déchets doivent y être acheminées chaque année en train. Baptisé Éco-Technoparc, le projet a été approuvé par le gouverneur de la région d'Arkhangelsk, mais sans consulter les habitants de la région. Ces derniers ont donc décidé de se mobiliser pour bloquer les travaux.
Au début, ici, il y avait très peu de monde, seulement quelques habitants des villages aux alentours. Il n'y avait personne pour nous remplacer. Et on s'est installé dans un wagon abandonné. On prenait des photos et on faisait des dossiers pour porter plainte. Tous les jours, on voyait arriver des camions-citernes, des tracteurs, des excavateurs. Il y en avait vraiment beaucoup. On n'avait pas de moyens de communication, aucun chauffage. Alors on faisait du feu pour se réchauffer. En février, en mars dernier, il a fait particulièrement froid, moins 37 degrés. On était là et on tenait la garde, 24 heures sur 24.
Très vite, la mobilisation prend de l'ampleur. La lutte menée par les habitants des villages alentours est relayée dans toute la région. Grâce aux réseaux sociaux et aux vidéos diffusées sur Internet, la cause trouve un écho national. Et les locaux voient débarquer dans leur campement des militants venus de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de toute la Russie.
Beaucoup de gens nous ont aidés. Ceux qui ne pouvaient pas venir jusqu'ici nous transféraient de l'argent, nous apportaient des manteaux, pourvu qu'on y reste, qu'on ne parte pas, car beaucoup de gens n'ont pas les moyens de venir. Certains ont des enfants en bas âge. Même des retraités nous envoient de l'argent. Tout le monde est contre la décharge. Ici, c'est le cœur du Nord qui se bat.
Bouteilles de shampoing, sacs plastiques, couches culottes, ces déchets ne seront jamais recyclés. Les habitants du Nord en sont persuadés. Ils s'inquiètent d'une pollution durable de leurs forêts et de leurs rivières. C'est pour cette raison que Nikolai Polutov, ouvrier dans une papeterie locale, a décidé lui aussi de militer contre la décharge.
Je vis là depuis ma naissance et je sais très bien que les forêts et les rivières du Nord sont fragiles. À Chies, il y a des marécages et tous ces déchets peuvent infiltrer les sous-sols. Si on les pollue, il faudra des décennies pour revenir en arrière. En plus, ils vont nous amener des déchets qui ne sont pas correctement triés, y compris des déchets chimiques. Cela pourrait causer des dégâts irréparables et empoisonner nos rivières.
Pourquoi ils ont choisi cet endroit précisément, à votre avis ?
Je vais vous dire franchement, l'auteur de ce projet est un idiot. Ils se sont lancés là-dedans sans même se demander à qui cette terre appartenait. Un fonctionnaire a dû leur dire que personne ne vivait là et que ça n'avait pas d'importance. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans rendre de compte. Heureusement, les gens du Nord sont différents. Leur projet ne verra jamais le jour, jamais.
Sur son site internet, l'entreprise en charge du projet assure vouloir jouer la transparence. Pourtant, elle a refusé de répondre à nos questions. Les autorités de la région d'Arkhangelsk nous ont, elles, répondu, mais uniquement par écrit. Dans leur courrier, elles affirment que tout sera fait pour protéger l'environnement et que le projet permettra de créer des emplois et de financer des infrastructures avec l'aide de la région de Moscou. L'administration locale ajoute qu'une expertise est en cours et que la population sera consultée, mais pas avant 2020. En attendant, les travaux ont été suspendus. Une première victoire pour les opposants de Chies, qui continuent malgré tout de surveiller le chantier. La journaliste russe Yelena Solovieva a suivi depuis les tout premiers jours le mouvement de contestation. À ses yeux, plusieurs éléments peuvent expliquer le succès de la mobilisation.
D'abord, les militants de Chies connaissent très bien la forêt. Ils savent chasser, pêcher, construire des izbas. Ils savent comment organiser la vie en forêt, loin de la civilisation. Ils peuvent occuper le terrain malgré des conditions très difficiles. Un autre aspect important, c'est que le camp reçoit des dons financiers qui viennent de toute la région. C'est un travail de collecte qui s'effectue tous les jours depuis déjà plus de 6 mois. Dans le nord, les gens sont très solidaires et se mobilisent plus facilement car les conditions climatiques sont très difficiles.
За больших расстояний между населенными пунктами люди легче консолидируются.
Давай разрушим эту тюрьму. Здесь этих стен стоять не должно.
Меня зовут Эдуард.
Je m'appelle Edouard, j'ai 43 ans. Je suis cuisinier et je viens d'Arkhangelsk.
Я из города Архангельск.
La première tente, c'est celle-là, je crois qu'elle a un nom.
Ленинград.
Pourquoi Leningrad?
Non, это символично звучит.
C'est symbolique. Vous avez vu nos autres tentes, forteresse, Stalingrad, Leningrad.
Mais vous faites beaucoup, il y a beaucoup de références à la Seconde Guerre mondiale, pour quelle raison?
Symbolisme.
C'est symbolique, je vous ai dit. Nous sommes en guerre et ici c'est la ligne de front.
Ligne de front.
C'est notre stock principal. Ici, nous stockons des médicaments, des aliments. Là, il y a des prises de courant. Bref, c'est notre réserve. Aujourd'hui, on a encore reçu tout un tas de choses d'Arkhangelsk. Là, c'est notre table commune. C'est ici que nous prenons nos repas et où l'on se réunit le soir. Là, c'est la cuisine. Tout à l'heure, on sera une vingtaine à y manger.
Et là, c'est un endroit très important, je crois, c'est le samovar.
Oui, ce sont les gars d'Urdoma, le village d'à côté, qui l'ont fabriqué. Ça fait du bien de venir se réchauffer près du feu et de boire du thé bien chaud. Et puis les gens se relaient au poste pour tenir la garde. Ils ont froid là-bas. Ils prennent du thé avec eux dans des thermos.
Et là, il fait déjà froid. C'est encore l'automne. Vous allez affronter des températures moins 20, moins 30 degrés. Vous êtes prêt à affronter ça?
Mais bien sûr que nous sommes prêts. Nous allons avoir des tentes chauffées que nous sommes en train d'installer. De grandes tentes avec des poêles. Donc oui, nous sommes prêts à affronter l'hiver.
Мы подготовлены к зиме. Достаточно.
С чарами не справишься, век ты будешь мой, ой, ой.
Nous suivons à présent une autre habituée du camp de Chies. 37 ans, le regard pétillant et le pas vif, Vera fait la tournée des postes de surveillance. Et pour se donner du courage, elle entonne une vieille chanson populaire.
Par là, on peut aller au bagne que nous avons construit. Puis, à l'endroit où se trouve notre eau potable. Avant, on allait chercher de l'eau dans les villages voisins et puis on a trouvé un puits. Et du coup, maintenant, on vient ici.
Sur le chemin, nous croisons deux des gardes de sécurité embauchés par l'entreprise Eco-Technoparc pour protéger le chantier. Uniforme noir, visage cagoulé, ils nous scrutent sans nous adresser la parole. La tension est palpable. Depuis le début de la contestation, les incidents se sont multipliés entre les militants et les gardes.
Le 6 août dernier, c'est un garde qui nous a provoqués. On voulait bloquer des camions qui nous apportaient du carburant. Le garde a attaqué un de nos hommes. Il a déclenché une bagarre. Ça a été très violent. 11 de nos hommes se sont retrouvés à l'hôpital, l'un d'entre eux au service de réanimation avec le nez cassé.
Les militants de Chies en sont persuadés. Les agents de sécurité ont pour consigne de multiplier les agressions verbales ou physiques pour provoquer un incident. Pour éviter tout dérapage, les militants ont donc adopté un code de conduite très strict. Pas de provocation et pas d'alcool. Une règle très importante aux yeux d'Edouard, le cuisinier d'Arkhangelsk.
Notre règlement, on le transmet aux nouveaux quand ils arrivent. Mais la règle la plus importante, c'est zéro alcool. Imaginez si on commençait à boire. Ce ne serait plus une protestation ici, ce serait n'importe quoi. On est quand même en guerre ici. Il faut garder la tête froide et le cœur chaud.
Et comment est-ce que vous prenez les décisions dans le camp, les décisions de tous les jours? Comment ça se passe?
Pour les décisions de tous les jours, on se réunit, là, où il y a des bancs ou bien ici, à table. Et on discute. Puis on vote. Mais il n'y a pas de chef. C'est en votant qu'on décide de ce qu'on fait.
Les militants que nous avons rencontrés nous ont affirmé ne jamais avoir eu d'expérience politique avant que ce projet de décharge ne vienne chambouler leur existence. Pour la journaliste Yelena Solovieva, Chies est ainsi devenu une sorte de laboratoire politique, un laboratoire unique en Russie.
C'est un exemple incroyable qui continue de m'épater tous les jours. Un exemple d'une auto-organisation efficace, la preuve que les gens peuvent prendre des décisions par eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin d'être guidés en permanence. Ils ont acquis une expérience politique. Ils ont appris à organiser des événements, à formuler leurs exigences et à les faire entendre. Ils ont fait en sorte que Poutine se sente obligé de parler de Chies. Et ils ont réussi à faire arrêter le chantier.
Au fil des mois, le camp de Chies est devenu une cause emblématique en Russie, une référence citée dans tout le pays. Dans les éditoriaux de la presse indépendante, dans les discours des opposants politiques et même durant les manifestations qui ont éclaté l'été dernier à Moscou. Un combat local devenu une cause nationale.
Je suis très surprise quand j'entends dire qu'il ne s'agit pas d'un combat politique, mais d'un combat écologique. En Russie, toute action de protestation écologique devient immédiatement politique. La première revendication des manifestants était la démission du gouverneur. Et puis en avril, les manifestants ont exigé la démission de Poutine. C'est une protestation contre les rapports qui se sont installés entre le pouvoir et le peuple. Les gens ne protestent pas seulement contre une décharge à Chies, mais même si c'est évidemment très important, ils veulent aussi que le pouvoir central adopte une autre attitude vis-à-vis des régions.
La nuit est tombée sur le camp de Chies, le froid est saisissant, les militants se regroupent autour du feu. Sur la voie ferrée, toute proche, un train de marchandises file vers le nord. Regard sombre, visage creusé par les rides, Vladimir nous accorde quelques instants avant de rejoindre son poste de surveillance. Âgé de 67 ans, cet ingénieur à la retraite est déjà venu plus de 20 fois sur le camp. Sa voix est empreinte de colère, colère à l'encontre des promoteurs qui se cachent derrière la décharge, mais aussi du pouvoir central qui a voulu imposer ce projet sur sa terre natale.
Moscou s'éloigne de plus en plus de nous. Je ne parle pas des habitants de la capitale, bien sûr, mais du pouvoir. Il y a déjà une vraie frontière entre nous, le peuple, et ceux qui sont au pouvoir. Moscou est un État à part. Tous nos impôts partent là-bas. Ici, on a la forêt, le pétrole, le gaz, on a beaucoup de richesses, mais tout l'argent qu'on gagne part à Moscou. Notre argent va à Moscou et eux, en échange, ils nous donnent leurs poubelles.
Vous avez l'impression qu'avec ce projet, c'est une forme de mépris qui vous est manifestée par le pouvoir, par Moscou ?
Mais oui, pour nous amadouer, ils nous ont dit, on va vous aider, on va rénover vos écoles, on va réparer vos routes. Et en échange, vous acceptez nos détritus. Mais les gens ne veulent pas de ces miettes, de cet argent sale gagné, on ne sait pas comment. Ils ont voulu nous acheter, mais on n'achète pas les gens du Nord. Vous savez, mes ancêtres se sont installés ici dans cette région il y a 400 ans. J'ai vérifié dans les archives. Alors, ce n'est pas moi qui vais quitter cette terre, ni mes enfants. Nous sommes originaires d'ici et nous resterons ici. Dans le Nord, on s'est habitué à des conditions de vie très dures. Ici, on défend notre terre coûte que coûte. C'est grâce aux Sibériens, aux gens du Nord, que les plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale ont été remportées. Nous sommes les gens du Nord et nous allons nous battre jusqu'au bout.
Le Nord n'est pas la poubelle de Moscou. Un grand reportage de Daniel Valo, réalisation Eva Piedel, un magazine à retrouver sur le site de RFI.